L'ethnologie. Fondant son enquête sur les peuples du Moyen-Orient, Hérodote, qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ, est souvent considéré comme le père de l'ethnologie. Avec le temps, les grandes découvertes en élargissant les perspectives de la géographie modifient les interrogations métaphysiques en questions concrètes, reposant le plus souvent sur des besoins, des nécessités politiques et économiques. Le bouleversement des connaissances remet en cause peu à peu l'eurocentrisme qui place la culture occidentale au centre du monde. La naissance de l'ethnologie. Il faut attendre 1772 pour que, pour la première fois, le terme « ethnographische », c'est-à-dire « ethnographie » en français, apparaisse et désigne, selon Ludwig von Schlözer, son auteur, une méthode linéenne pour traiter de l'histoire particulière. Le premier ethnologue, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire homme de terrain, est l'Américain Lewis Henry Morgan, qui séjoure en 1850 chez les Iroquois. Sa contribution à l'ethnologie est importante puisqu'il fonde l'étude comparative des systèmes de parenté, méthode clé en ethnologie. À la même époque, Edward Burnett Tylor centre son étude sur les rapports fonctionnels entre différents phénomènes. André le roi Gourand, dans Le fil du temps en 1986 et dans Ethnologie et préhistoire, rappelle que l'événement décisif pour l'ethnologie française est l'association en 1928 de Paul Rivet, médecin anthropologue et directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, et de Marcel Mauss, sociologue et professeur à l'École des hautes études, une association qui aboutit à la création de l'Institut d'ethnologie à la Sorbonne. Pour la première fois, toutes les tendances se trouvent réunies en un seul courant. L'ethnologie s'impose comme but d'étude, la diffusion des traits culturels à travers l'espace géographique et temporel. Le terme de diffusionnisme est appliqué à ce type d'étude. Cette méthode se heurte à deux obstacles. Premièrement, les peuples primitifs n'ont pas, ou n'ont que peu d'histoire au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire des événements pouvant bouleverser à un moment donné leur société. Il devient presque impossible dans ce cas d'établir la provenance de tel ou tel trait culturel ou de telle coutume lorsqu'on veut les confronter avec d'autres. Deuxièmement, les cultures sont formées d'éléments disparates acquis au cours du temps et ainsi ne peuvent être étudiées au sein de structures. Deux théories essayent d'apporter une réponse pour surmonter ces difficultés. Le fonctionnalisme, qui est une théorie de Bronislav Malinowski, qui étudie les phénomènes culturels à partir de leurs besoins sociaux. Et le structuralisme, théorie de Claude Lévi-Strauss, qui pense déceler dans l'organisation sociale l'empreinte inconsciente des structures de la pensée. Le fonctionnalisme. Ethnologue britannique d'origine polonaise, Bronislav Malinowski pose comme principe que la culture est un tout intégrant les différentes institutions pour satisfaire un besoin. Il connaît de nombreux adeptes tels Alfred Reginald Radcliffe Brown, qui définit la structure sociale comme un ensemble de relations sociales. Le fonctionnalisme est une théorie de la culture dont le concept fondamental n'est pas celui de fonction mais d'organisation. Il est amené à définir les besoins de l'individu auxquels répondent les différentes institutions. Malinowski, pour définir son concept d'organisation, s'inspire des théories physiologistes où l'être vivant est conçu comme un système organisé. Chaque organe y est dépourvu d'existence indépendante, mais sert à faire fonctionner de façon positive l'ensemble du corps et en ce sens ne peut être étudié à part. Or, dans le domaine scientifique comme dans le domaine ethnologique, on est obligé pour découvrir leurs caractéristiques, leurs lois, d'isoler les phénomènes. Le structuralisme. Le structuralisme de Claude Lévi-Strauss s'oppose radicalement au fonctionnalisme de Malinowski en renonçant à rechercher le fait social. Héritier des méthodes de linguistique moderne, le structuralisme va tenter de dégager les structures inconscientes qui sont le reflet des structures mentales qui gèrent les phénomènes sociaux dans leur ensemble. Avec « Les structures élémentaires de la parenté » publié en 1949, Lévi-Strauss gagne sa notoriété, car il organise sa première grande étude structurale. Il démontre que la prohibition de l'inceste est liée à la nature en liant l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec certains membres de sa famille au fait que les femmes sont des valeurs d'échange entre les hommes. La règle imposée qui ne permet pas d'épouser sa sœur, sa mère ou sa fille oblige en réalité à les donner à autrui, donc à recevoir une épouse de l'extérieur en échange. Cet échange permet de resserrer et de perpétuer le devenir du groupe social. Certaines bases fondamentales président à l'élaboration de sa méthode. Tout d'abord, l'absence d'histoire, selon Lévi-Strauss, caractérise les sociétés primitives, car elles sont dénuées, pour lui, de toute forme de progrès linéaire et progressif, ceci étant au contraire discontinu et indépendant les uns des autres. Cette position a souvent été reprochée à Lévi-Strauss, car elle traduit la conception générale de la société caractérisée par une absence de progrès historique plus qu'un simple choix épistémologique. En opposition avec le marxisme qui voit dans les bouleversements économiques et politiques le moteur d'un progrès général, la société se révèle être la conséquence d'un choix arbitraire de règles qui se regroupent par hasard. De même qu'un individu parle à l'origine sans connaître de règles de grammaire ou de syntaxe, une société évolue au sein de ses coutumes, traditions et règles avec la même inconscience sans pouvoir expliquer ses propres structures. Cette constatation implique celle de l'existence de structures mentales inconscientes chez tous les individus. La notion d'inconscient étudiée par Freud sous-entend un système formé de représentations refoulées qui essayent d'émerger dans la vie consciente. Il faut la distinguer de celle que Carl Gustav Jung appelle l'inconscient collectif, c'est-à-dire les symboles ancestraux, les archétypes rattachés à une culture dont nous héritons à la naissance. Ainsi, la conscience ne peut-elle rendre compte de la totalité de la vie psychologique? Ces structures sont aussi formatrices de l'humanité et à travers leur diversité, on peut trouver ce qui fonde l'intelligibilité. Mais comment découvrir les règles qui régissent ces différentes structures? Lévi-Strauss applique les grands principes de la linguistique structurale à l'étude des faits culturels. Ceux-ci ne sont envisagés que comme des systèmes où chaque élément n'a de sens que par les relations qu'il entretient avec les autres. Lévi-Strauss transpose les conséquences de l'arbitraire du signe, qui est le processus totalement inconscient traduisant des normes qu'on n'a pas choisies, mais sans lesquelles toute communication est impossible dans son système, et avance que dans le domaine culturel, les comportements humains relèvent pour une grande part de l'inconscient. Lévi-Strauss montre comment les peuples transmettent ainsi, sans pouvoir le justifier de façon naturelle, leurs mœurs, leurs mythes, leurs coutumes, témoins de ces structures mentales inconscientes. Le mythe est une production de la pensée qui fonctionne de façon parfaitement autonome pour Lévi-Strauss, à l'opposé de la conception de Malinowski pour qui les mythes présentent des similitudes. Mais le mythe n'a d'intérêt que s'il permet de conduire à la pensée mythique, véritable instrument du mythe. Les mythologiques publiées entre 1964 et 1971 sont une grammaire générale des mythes. Elles décomposent ceux-ci en éléments ou mythèmes dont la seule combinaison donnera un sens. Sa position face au symbole est identique. La sociologie. Auguste Comte utilise pour la première fois en 1839 le mot sociologie pour désigner l'étude scientifique portant sur les faits sociaux. Mélange de racines grecques et latines, le terme remplace celui de physique sociale forgé par le Belge Jacques Quételet qui prévalait jusqu'alors. Outre Auguste Comte, les grands noms qui marquèrent l'histoire de cette discipline sont ceux d'Émile Durkheim et de Max Weber. La naissance de la sociologie. Héritier de Saint-Simon, dont il fut le disciple en 1824, Auguste Comte, dans son cours de philosophie positive et dans son discours sur l'esprit positif, exprime sa volonté de se livrer à une observation et une analyse rigoureuse des faits sociaux. Il veut étudier les phénomènes propres aux individus, dont la nature diffère de ceux de l'ensemble des conduites sociales. La sociologie est différente de l'histoire, car elle nécessite de repérer les phénomènes et d'en dégager des lois. Là où un siècle plus tôt Montesquieu mettait en relief la diversité humaine et sociale dans De l'esprit des lois, Auguste Comte est, lui, le sociologue de l'unité humaine et sociale. Il veut étudier la société comme un tout. Pour ce faire, il met en place une démarche expérimentale, dite positiviste, basée sur l'observation des faits réels et de leurs relations.
N'oubliez pas, pensée positive. Entre 1820 et 1826, plusieurs opuscules. Sommaire appréciation sur l'ensemble du passé moderne. Puis, plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société. Considération sur le pouvoir spirituel. Et enfin, considérations philosophiques sur les sciences et les savants marquent la première étape d'une réflexion sur la société de son temps, que Comte pense comme beaucoup d'hommes de son époque en crise. Le cours de philosophie positive, professé de 1826 à 1842, publié entre 1844 et 1847, en constitue la deuxième étape. Il passe en revue les différentes sciences, expose la loi des trois états, et la classification des sciences. Le système de politique positive, de 1852 à 1854, marque la troisième et dernière étape et pose la question de la permanence de la nature humaine par rapport à celle de l'ordre social. Ce livre constitue la Bible du positivisme.
Émile Durkheim est considéré comme l'un des autres pères fondateurs de la sociologie. Ses deux ouvrages, La division du travail social, publié en 1893, et Le suicide, publié en 1897, mettent au point des règles de la méthode sociologique permettant de dégager des réalités sociales, déterminant à leur tour des comportements individuels dans une démarche avant tout objective et positive, puisque le fait social obéit au déterminisme social. Alors qu'il est encore jeune professeur, la sociologie reste une activité au caractère mal défini, sans véritable percée scientifique. La revue qu'il fonde, L'année sociologique, et dont Marcel Mauss reprendra la publication, ne voit le jour qu'en 1896. La sociologie compréhensive. Souvent présenté comme l'initiateur de la sociologie compréhensive, par opposition aux formes sociologiques matérialistes et idéalistes, Max Weber veut donner à cette science sociale le statut d'une véritable science en la libérant du faux savoir métaphysique. Sa méthode fonctionne à l'aide de représentations types qui n'ont pas besoin de correspondre à une réalité particulière, mais permettent de saisir la cohérence d'une unité sociale. Il exerce une influence déterminante sur tous les courants. Dans son ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » publié en 1905, il tente de comprendre le type d'esprit qui a permis d'aboutir au capitalisme et montre que l'éthique calviniste a joué dans la formation de ce système un rôle décisif. Par son refus du luxe et de l'oisiveté, le calviniste bannit les dépenses inutiles autant qu'improductives. La science du langage. Se définissant comme la science du langage, la linguistique remonterait aux temps les plus anciens. Sous l'influence de Ferdinand de Saussure, son importance s'accroît peu à peu et à partir du milieu du XXe siècle, elle se constitue en tant que science avec Émile Benveniste et Noam Chomsky. La naissance de la linguistique. Professeur à la Sorbonne, Ferdinand de Saussure pose les bases de la linguistique. Son œuvre en grande partie orale fut transmise et conservée grâce à ses élèves qui éditèrent son cours de linguistique générale en 1916. Depuis Saussure, tout le travail de la linguistique a été de saisir de quel point de vue spécifique elle observait le langage pour se différencier des autres sciences. Ainsi, pour un linguiste, décrire une langue, c'est isoler les structures du langage qui permettent la communication. Mais s'il appréhende l'étude du langage humain dans son ensemble, il n'est pas nécessairement polyglotte. Il a des connaissances sur le système des langues sans forcément les parler. Pour Ferdinand de Saussure, le langage est l'aptitude à communiquer avec les autres. La langue est l'instrument de communication produit par la parole. La langue se caractérise par des règles consignées dans des grammaires qui évoluent au cours des usages. L'étude diachronique consiste en son analyse du point de vue de l'évolution historique. Son observation dans son fonctionnement interne est dite étude synchronique et sera mise au point par Saussure. La linguistique moderne. À la suite de Saussure, la linguistique se structure peu à peu comme une discipline autonome. Émile Benveniste travaille sur les langues indo-européennes et la linguistique théorique, puis réunit le fruit de ses recherches dans son livre « Problèmes de linguistique générale » en 1966 et 1974. Noam Chomsky considère que le fait de parler dans une langue repose sur des processus susceptibles d'être analysés. Avant lui, les seuls points de vue morphologiques, syntaxiques, etc. prévalent dans l'étude linguistique. Dans « Les structures syntaxiques » en 1957, puis dans « La linguistique cartésienne » en 1966, il bouleverse la linguistique. Selon lui, l'homme détient des mécanismes innés d'acquisition du langage. Les sciences du passé. L'esprit, l'homme, le langage. Avant de refermer ce volet sur les sciences humaines, tournons-nous en arrière pour considérer les disciplines scientifiques qui s'intéressent, elles, au passé, à savoir l'archéologie et, bien sûr, l'histoire. L'archéologie. Agatha Christie définissait ainsi l'archéologie. Selon moi, l'archéologue est une sorte de blagueur. Il passe sa vie à fouiller le sol et à raconter les événements qui se déroulaient voilà des milliers d'années. Mais comment les a-t-il appris ? N'en déplaise à la facétieuse romancière anglaise, l'archéologie repose pourtant sur des moyens scientifiques, sur des technologies les plus positives pour reconstituer ces archives implantées dans le sol. Il existe une archéologie préhistorique qui étudie les documents des périodes avant l'écriture et une autre historienne des documents des périodes postérieures. La naissance de l'archéologie. Jusqu'en 1846, date à laquelle Jacques Boucher de Perthes fait paraître le premier volume de ses Antiquités celtiques et antédiluviennes au milieu du scepticisme général, le comportement de nos ancêtres avait davantage intéressé les écrivains et les cinéastes. Publié en 1911, « La guerre du feu », le célèbre roman de J.H. Roney, aîné, qui est le pseudonyme de Joseph-Henri Boeux, montre bien la collection de clichés si longtemps attribués à la période préhistorique. Des hommes des cavernes belliqueux s'affrontent avec des dinosaures, la vie de la horde primitive à l'intérieur de la grotte, etc. Ces 20 dernières années, un grand nombre de découvertes scientifiques et de techniques nouvelles permettent dans un premier temps de mieux dater et d'analyser les informations enregistrées par le fouilleur. D'autre part, les techniques de fouille évoluant rendent plus fiable l'interrogation posée sur ces données. En l'espace de 20 ans, l'archéologie est devenue une science pluridisciplinaire qui fait appel aux autres sciences humaines comme l'ethnologie et la sociologie, comme aux sciences exactes comme la physique nucléaire et la chimie. En creusant un peu, que pouvons-nous réellement savoir de la période dont le temps se compte en millions d'années ? Des moyens technologiques les plus poussés et des conditions de fouille selon une méthodologie très rigoureuse permettent pourtant de cerner pas à pas avec un maximum d'exactitude ce qui s'est produit. Ces deux idées directrices, comme bien d'autres, montrent que le but premier de l'archéologie est la reconstitution de l'histoire culturelle d'une civilisation. Son but second étant de reconstruire le mode de vie des populations qui nous ont laissé des vestiges. Dès les années 30, les archéologues réussissent à tenir leur pari et à atteindre ces deux objectifs, ce qui s'avère néanmoins insuffisant. L'archéologie semble être dans un cul-de-sac. Son objet s'est malheureusement trop limité à n'être qu'une comparaison de formes et une systématisation. Les 20 années suivantes vont lui permettre de se dégager de cette immobilité en centrant son intérêt sur le problème du processus culturel. Elle ne se limite plus seulement à la question « quoi », mais peut répondre à celle du « comment » et du « pourquoi ». Les trois buts en archéologie visent donc à reconstruire l'histoire culturelle, les modes de vie et à mettre en valeur le processus culturel. Avant de fouiller, l'archéologue repère les vestiges les plus visibles. Pour ce faire, la photographie aérienne est un précieux instrument. La différence des coloris de terre reste un élément d'indication. Il existe aussi des fouilles sous-marines dont les principes méthodologiques restent les mêmes que pour des fouilles sur terrain. L'histoire. Le mot « historia » est dérivé du mot grec dont la racine désigne l'action de voir. Il renvoie aussi à « histor », c'est-à-dire celui qui a cru un témoin. Aussi, désigne-t-il par extension le récit ou l'enquête. Mais il renvoie aussi à l'objet de ce récit, qui sont les événements et les faits. Dès l'Antiquité, l'histoire en tant que discipline étudie les événements du présent ou du passé. Elle fait partie intégrante des sciences humaines et sociales, au même titre que la psychologie, la sociologie, l'ethnologie. L'histoire comprend de nombreuses branches, telles l'histoire politique ou l'histoire religieuse, et ne se fonde pas seulement sur les sources écrites. Elle ne peut se définir comme discipline scientifique que depuis peu. Ce n'est qu'au cours du XIXe siècle que se sont constituées, érigées en conditions nécessaires, les méthodes qui permettent à la science historique de se revendiquer comme telle. L'histoire en marche. L'Antiquité gréco-romaine voit apparaître les chroniqueurs ou logographes qui sont les narrateurs des grandes actions qui, s'efforçant de s'affranchir des récits mythiques sans toutefois y parvenir complètement, vont accompagner l'histoire dans ses premiers pas. Qualifié par Cicéron de « père de l'histoire », Hérodote d'Halicarnasse, qui vécut au Ve siècle après Jésus-Christ, se propose ainsi de narrer, tel un poète, les actions grandes et curieuses des Grecs. Sa contribution est essentielle dans la marche en avant de l'histoire, car pour la première fois, quelqu'un veut expliquer les événements par des causes. Il classe même les événements en trois catégories en fonction de leur véracité. La vue par le témoin direct, le fait d'avoir entendu parler de quelque chose, et l'opinion. Appartenant à la génération suivante, Thucydide est connu pour avoir relaté la guerre du Péloponnèse et suivi l'évolution de ce conflit entre Sparte et Athènes. On lui doit la rigueur et le souci d'objectivité. Il faut attendre le IIIe siècle avant Jésus-Christ pour voir réellement les premières tentatives d'une histoire de Rome en latin. Une date si tardive s'explique par le fait que les informations sont rassemblées année après année par les pontifes dans les archives qui furent détruites lors du grand incendie de Rome par les Gaulois. Les premiers vrais historiens de Rome seront des poètes et des lettrés tels Caton l'Ancien, qui entreprit une histoire de Rome, Polybe, Cicéron, Salluste et Tite Live. Abreuvé d'imagerie religieuse, le Moyen-Âge est marqué par la rédaction de textes consacrés à la vie des saints qui, le plus souvent, sont rédigés par des moines appelés hagiographes. Avec l'humanisme de la Renaissance, le goût pour l'épigraphie, qui est l'étude des inscriptions, se développe. Les guerres de religion du XVIe siècle fournissent aussi leur lot d'historiens. Avec Machiavel, l'histoire devient source de réflexion sur le pouvoir. Mais c'est avec la création de l'École nationale des chartes en 1821 que les historiens deviennent enfin de véritables professionnels. Une science de l'érudition. En 1808, la création des archives nationales, installées dans l'hôtel de Rohan-Soubise, dans le quartier du Marais à Paris, puis celle de l'École nationale des chartes pour former des archivistes, contribuent à faire de l'histoire une science tournée vers l'érudition. Les domaines de l'histoire sont élargis et comprennent dorénavant la grammaire comparée et la philologie germanique. En Allemagne, de vastes collections de documents sont regroupées et forment le Monumenta Germaniae Historica. L'histoire se donne peu à peu les moyens de devenir une science par la raison essentielle de l'infatigable curiosité du siècle. Mais surtout, domine dans les écrits de Jules Michelet et d'Augustin Thierry la volonté d'exploiter beaucoup plus qu'auparavant les sources. En 1898 paraît un guide, l'Introduction aux études historiques, qui est un véritable instrument de travail pour les historiens. Aujourd'hui, le travail de l'historien est de reconstruire le fait historique à partir d'éléments issus du passé. Des documents écrits ou administratifs, des textes anciens, littéraires et des vestiges matériels. L'historien mène son enquête constituée par la critique historique, l'analyse et la critique des documents, tout en prenant de la distance avec toutes les idées, les théories et les synthèses. Il s'agit presque d'en faire le procès. En effet, il faut savoir regarder ailleurs et autrement. Le problème de l'histoire n'est pas que de ressusciter, mais aussi d'interroger. Les différentes écoles se singularisent surtout par leur approche respective.
Un peu de technique dans les annales. Fondée en 1929, l'École des annales, du nom de la revue fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre, marque une coupure avec l'histoire positiviste, soucieuse surtout des événements et des faits. « Aucune époque, » écrit Pierre Nora en 1974 dans « Faire l'histoire », « ne s'est vue comme la nôtre, vivre son présent comme chargé d'un sens déjà historique. » Et cela seul suffirait à la douer d'une identité, à affranchir l'histoire contemporaine de son infirmité. Tout ce qu'on a coutume d'entendre par la mondialisation a assuré une mobilisation générale des masses qui, à l'arrière du front des événements, représentaient autrefois les civils de l'histoire. Tandis que les mouvements de colonisation puis de décolonisation intégraient à l'historicité de type occidental des sociétés entières, hier encore sans histoire. Cette vaste démocratisation de l'histoire, qui donne au présent sa spécificité, possède sa logique et ses lois. L'une d'elles est que l'actualité, cette circulation généralisée de la perception historique, culmine en un phénomène nouveau, l'événement.